Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 janvier 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le nouveau président du Ghana, John Mahama, a prêté serment mardi matin à Accra, la capitale ghanéenne. Au Nigeria, au moins 46 personnes ont été enlevées lors du raid sur la ville de Ghana, dans l'état de Zamfara. Les propos du président Macron qui estime que les dirigeants africains ont oublié de dire merci à Paris pour son intervention au Sahel suscitent une vive polémique en Afrique, mais également en France. En Haïti, plus de 5600 personnes ont été tuées par les violences des gangs en 2024. Et dans notre partie magazine, la génération Z, confrontée à l'essor des médias sociaux, s'inquiète de l'impact de ces plateformes sur la santé mentale.
Les jeunes femmes avec lesquelles je travaille sont très conscientes de l'impact des médias sociaux sur leur perception d'elles-mêmes et leur image corporelle.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le nouveau président élu du Ghana, John Mahama, a prêté serment ce matin à Accra, la capitale ghanéenne, devant une vingtaine de chefs d'État africains. Il a promis de relancer l'économie et créer des emplois. Alexandrine Hologno.
Ma réélection est un événement historique qui vaut la peine d'être répété, a déclaré le nouveau président de 66 ans lors de son investiture devant une large foule rassemblée sur la place de l'Indépendance, arborant les couleurs vertes, rouges, noires et blanches de son parti, le National Democratic Congress. Élu en décembre avec 56,6% des voix, John Mahama, qui avait déjà été président du pays entre 2012 et 2017, marque le retour au pouvoir du NDC après 8 ans de domination du New Patriotic Party, le NPP. Sa vice-présidente, Jane Nana Opoku-Agyemang, première femme à accéder à cette fonction au Ghana, a elle aussi prêté serment. Une vingtaine de chefs d'État africains étaient présents pour l'investiture, dont Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et bien d'autres, ainsi que plusieurs anciens présidents et chefs de gouvernement. John Mahama remplace Nana Akufo-Addo qui se retire après 2 mandats, perpétuant ainsi la tradition démocratique du Ghana.
Un tribunal de Conakry a condamné mardi à 2 ans de prison ferme l'opposant guinéen Aliou Ba pour offense et diffamation à l'encontre du chef de la junte. Il était reproché à Ba, chef du mouvement démocratique libéral, le modèle, d'avoir, lors de meetings, appelé les chefs religieux guinéens à sortir de leur silence sur la situation en Guinée, selon sa défense. Il était aussi poursuivi pour avoir qualifié d'incompétent le CNRD, l'organe dirigeant de la junte au pouvoir, selon la même source. En Ouganda, le procès de Kizza Besigye, figure majeure de l'opposition enlevée au Kenya l'année dernière, a repris devant une cour martiale mardi avec des échauffourées suite au placement en détention d'un de ses avocats. Kizza Besigye, qui a rejeté les accusations de possession d'armes et d'autres délits portés à son encontre, a comparu devant le tribunal militaire aux côtés de son co-accusé Obeid Loutalé. Des hommes armés ont enlevé au moins 46 personnes, dont des femmes et des enfants, lors d'un raid sur la ville de Ghana, dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont rapporté des habitants et un chef traditionnel local. Plus de détails avec Nani Talani.
Des dizaines d'hommes armés à moto ont ouvert le feu sur la communauté et incendié plusieurs maisons et commerces, ont fait savoir les habitants. Nous avons compté 46 personnes enlevées, hommes, femmes et enfants, et nous continuons à faire le bilan, a déclaré Aladi Garba Aouré, un chef traditionnel de Ghana. Un habitant, Bala Arauma, a ajouté que le nombre réel des kidnappés pourrait être plus élevé. Il précise que 6 personnes ont réussi à s'échapper pendant que les bandits déplaçaient leurs captifs dans les premières heures de l'attaque qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Un autre témoin, Youssouf Mohamed, a révélé que les assaillants avaient également incendié des dizaines de maisons et de silos contenant des denrées alimentaires. Selon Aladi Garba Aouré, l'intervention des forces de sécurité gouvernementale a empêché les attaquants de détruire entièrement la ville. Aucune victime n'a été déplorée. Le porte-parole de la police de Zamfara, Yazid Aboubakar, n'était pas disponible pour commenter l'incident.
Des propos du président Macron estimant notamment que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à Paris pour son intervention au Sahel suscite une vive polémique en Afrique mais également en France. Le point avec Eric Manilakis.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé son indignation, qualifiant ses déclarations de méprisantes à l'égard de l'Afrique et des Africains, estimant aussi que le président Macron se trompait d'époque. Le parti français La France Insoumise a dénoncé un discours paternaliste et néocolonial, tandis que le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rappelé que la France n'avait ni la légitimité ni la capacité d'assurer la sécurité de l'Afrique, citant la déstabilisation de la Libye comme un exemple. De son côté, un enseignant sénégalais a exigé une vision plus respectueuse de l'Afrique de la part de la France. Alioune Tine, figure de la société civile sénégalaise, estime plutôt qu'il faut réinventer ensemble des relations saines avec la France par le dialogue, le respect mutuel, le respect de la souveraineté des États, tout en repensant la souveraineté sécuritaire qui est la faiblesse des États africains. En réponse, une source diplomatique française a précisé que les décisions de retrait des troupes françaises en Afrique, notamment du Tchad et du Sénégal, étaient déjà actées, bien que le timing de ces annonces ait surpris Paris. Entre 2022 et 2023, quatre autres anciennes colonies françaises, le Mali, le Niger, le Centrafrique et le Burkina Faso, ont demandé le départ des troupes françaises et se sont rapprochées de Moscou.
10 insurgés islamistes radicaux Shebab ont été tués dans une frappe aérienne dans le sud de la Somalie, ont annoncé mardi les autorités militaires américaines. Le raid a eu lieu le 31 décembre à environ 35 km de la ville portuaire de Kismayo, a indiqué dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, qui ajoute qu'il a été mené à la demande du gouvernement somalien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, plus de 5600 personnes ont été tuées par la violence des gangs en 2024, soit un millier de victimes de plus qu'en 2023, selon le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Dili Diko.
Ces chiffres ne peuvent à eux seuls rendre compte des horreurs absolues qui sont perpétrées en Haïti, mais ils montrent la violence incessante à laquelle les gens sont soumis, a souligné le chef du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué. En outre, plus de 2200 personnes ont été blessées et près de 1500 enlevées, selon l'ONU. Haïti est confronté à la violence de gangs armés et à l'instabilité politique. Les gangs, qui contrôlent selon l'ONU 85% de la capitale, Port-au-Prince, ne semblent pas faiblir depuis l'arrivée en juin de la mission multinationale d'appui à la sécurité dépendante de l'ONU. Menée par le Kenya, la mission et ses quelques 400 policiers fait face à un manque criant de moyens et n'a pas permis de diminuer les exactions de groupes armés accusés de meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon. Des dizaines de soldats du Guatemala et du Salvador ont également été déployés début janvier. Le chef du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a réclamé des efforts supplémentaires de la part des autorités avec le soutien de la communauté internationale pour s'attaquer aux causes profondes de la crise, les inégalités économiques, la corruption et l'impunité. Il a appelé les pays à ne pas renvoyer les Haïtiens sur leur île et indiqué que le rétablissement de l'état de droit doit être une priorité.
Les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent à un niveau technique, a affirmé mardi le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les négociations indirectes ont repris ce week-end dans la capitale qatari, Doha. L'armée ukrainienne a assuré mardi continuer de se battre à Kourakové, une ville industrielle de l'est de l'Ukraine dont la conquête a été revendiquée la veille par la Russie, tandis que des affrontements se déroulent aussi pour d'autres cités du Donbass. Les militaires russes ont affirmé lundi avoir hissé le drapeau de la Russie sur Kourakové, une importante position défensive pour les troupes ukrainiennes dans le sud de ce bassin minier. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Soudan du Sud a annoncé ce mardi la relance dès demain mercredi 8 janvier de sa production de pétrole près d'un an après la rupture de l'oléoduc permettant son exportation au Soudan en guerre. Le gouvernement soudanais a donné son accord à Juba pour le transit de son pétrole après des mois de négociations. L'objectif de Juba est de produire 90 000 barils par jour pour les 6 premiers mois. Le groupe canadien Barrick Gold a annoncé lundi que les autorités maliennes avaient ordonné la saisie des stocks d'or présents sur les sites de Loulo-Gounkoto et qu'il leur avait donné quelques jours pour les débloquer, faute de quoi ils suspendraient ses opérations. L'industriel et l'État malien se livrent depuis des mois à un bras de fer pour ce qui est l'un des plus importants complexes aurifères au monde. Pour sa tournée africaine débutée le 5 janvier 2025, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi visite le Tchad, la République du Congo, le Nigeria et la Namibie, des partenaires clés pour la stratégie économique et énergétique de la Chine. Cette visite prolonge les engagements du sommet de Beijing, du Forum sino-africain, où le président Xi Jinping avait proposé un partenariat stratégique et annoncé un investissement de 50 milliards de dollars en Afrique. Wang Yi restera sur le continent jusqu'au 11 janvier à l'invitation de ces pays.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Dakar 2025, accident dans l'OEB au début de la troisième étape.
La Dacia du pilote français Sébastien Loeb a eu ce mardi un accident au début de la spéciale de la troisième étape du rallye Dakar en Arabie Saoudite, a indiqué l'organisation. Cet accident survient au lendemain de l'abandon du tenant du titre, l'Espagnol Carlos Sainz, qui a dû renoncer en raison de l'endommagement de son arceau de sécurité après un tonneau de sa Ford Repto lors de la 48e chrono. En raison des pluies sur le parcours, le rallye Dakar a raccourci à 327 km contre 496 km initialement le trajet de la troisième spéciale entre Bicha et Al-Henakia. Le rallye Dakar est actuellement dominé par le Sud-Africain Hank Lategan en auto et l'Australien Daniel Sanders en moto et s'achève le 17 janvier dans le désert de l'Empty Cut.
Coupe Davis, Nick Kyrgios de retour avec l'Australie.
Oui, Nick Kyrgios n'a plus joué en Coupe Davis depuis 2019, mais le capitaine de l'Australie, Leighton Hewitt, a décidé ce mardi de le sélectionner pour affronter la Suède à Stockholm entre le 31 janvier et le 1er février. Kyrgios avait atteint la finale de Wimbledon en 2022, mais il a ensuite été handicapé par des blessures et a effectué son grand retour la semaine dernière à Brisbane, après une opération au poignet où il a perdu en 3-7 serrés au premier tour face au terrible serveur français Giovanni Mpetsi-Pericard. L'Australien a également joué le double à Brisbane associé à Novak Djokovic. Le duo a été battu en quart de finale par les têtes de série numéro 1, Nicolas Mektic et Michael Venus.
NBA, les Spurs gâchent à Chicago. Dallas perd Irving et en cinquième match.
Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont été renversés par Chicago et Dallas, désormais privés de Luka Doncic et Kyrie Irving, enchaînés un cinquième revers lundi en NBA. Dallas souffrait sans ses stars, privés de Luka Doncic et de Kyrie Irving. Les Dallas Mavericks, finalistes au printemps, ont perdu lourdement sur le parquet des Memphis Grizzlies, 119-104, eux aussi privés de plusieurs joueurs dont Ja Morant. Minnesota se rebelle, malmené en début de rencontre par les Los Angeles Clippers. Les Minnesota Timberwolves ont renversé le match pour un succès étriqué, 108-116 à domicile. Le grec Giannis Antetokounmpo a validé son quatrième triple-double de la saison, 11 points, 12 rebonds, 13 passes, le 49e de sa carrière pour un succès de Milwaukee à Toronto, 128-104. Également à l'Est, le Magic d'Orlando, pourtant touché par une cascade de blessures, a surpris les New York Knicks dans le Madison Square Garden, 103-94, grâce à Cole Anthony, 24 points, 7 rebonds. Les Sacramento Kings au bout du suspense, ils ont réussi à remonter 17 points de retard dans le dernier quart-temps pour arracher la victoire après deux prolongations face au Miami Heat 123-118.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Tchad et le Sénégal ont dénoncé les propos d'Emmanuel Macron reprochant aux dirigeants africains un manque de gratitude envers la France pour son intervention au Sahel. Le Tchad, ayant rompu ses accords militaires avec Paris, a critiqué une aide française centrée sur les propres intérêts de la France. Le Sénégal a contesté les affirmations de Macron sur le retrait des troupes françaises. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint à Yaoundé le député camerounais Cabral Libi, candidat à la prochaine présidentielle dans son pays.
La France, pays souverain, prend la parole. Le Tchad et le Sénégal, qui sont également des pays souverains, se sont exprimés. On peut tout au plus invoquer une forme d'asymétrie communicationnelle au sujet d'une problématique qui les concerne tous. À la vérité, la France a cru s'arroger un ton paternaliste à l'endroit des deux autres pays qui, en réaction, ont invoqué leur souveraineté, ce qui, de mon point de vue, est tout à fait légitime.
Quelles pourraient être les conséquences diplomatiques des critiques récentes donc du Sénégal et du Tchad envers les propos d'Emmanuel Macron?
Je crois que la conséquence logique qui devrait advenir, c'est un respect renforcé entre ces différents pays. La France doit descendre un peu plus de ses grands chevaux, sortir de son paternalisme, arrêter de regarder d'autres pays souverains de haut, arrêter de tenir des propos que l'on pourrait trouver de condescendant, et je crois d'ailleurs que cet adjectif a été employé, je crois, soit le Tchad ou le Sénégal, et considérer que ces autres pays-là sont, au titre en tout cas de la Charte des Nations Unies, des pays souverainement égaux.
Ces propos surviennent après la demande de retrait des armées françaises du continent notamment. Est-ce que, de votre point de vue, les différentes perspectives de départ dans les pays africains sont les mêmes à Abidjan, au Niger, au Sénégal, au Tchad et dans d'autres pays où ça pourrait advenir?
Il s'agit au fond de rupture. Ce vent qui souffle violemment en Afrique de l'Ouest, qui commence à s'emparer de l'Afrique centrale. Donc c'est un vent de rupture qui souffle. Les pays sont en plein recouvrement, en tout cas un certain nombre de pays sont en plein recouvrement de la plénitude de leur souveraineté. Maintenant, dans certains cas, ça se passe un peu plus brutalement et dans d'autres, comme la Côte d'Ivoire, de façon beaucoup plus douce. Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Les temps sont en train de changer et le message qui est envoyé par un certain nombre de pays d'Afrique, c'est qu'il faut s'arrimer à la nouvelle donne, celle de la souveraineté de tous les pays. Et la France gagnerait à capter très rapidement le message et à œuvrer à ce que la perception qu'on a d'elle dans un certain nombre de pays change rapidement. Parce que la France, jusqu'ici, est vue par bon nombre de citoyens de pays francophones comme un oppresseur, comme un colon, comme un pilleur. Et bien, il faut que cette France-là se mue et mute pour devenir la France pourvoyeuse de solutions technologiques, de solutions de développement, dans un paradigme gagnant-gagnant, comme elle interagit avec soit certains pays qui sont sortis de son précaré il y a longtemps, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et d'autres, ou alors d'autres pays qui n'en ont jamais fait partie, mais avec lesquels elle entretient des relations économiques et diplomatiques tout à fait rentables pour les deux. Je veux parler des pays comme la Chine, la Turquie et d'autres. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les temps changent et il faut que chacun des protagonistes l'intègre le plus rapidement possible, surtout la France.
Cabral Libi, député camerounais et candidat à la prochaine présidentielle dans son pays. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, en baisse dans les sondages, a annoncé sa démission après plusieurs semaines de crise politique. Sous pression de l'opposition et de nombreux membres de son propre parti, il a décidé de quitter ses fonctions. En attendant, le Parlement est suspendu jusqu'au 24 mars. Pour analyser les raisons de cette démission, l'opinion des Canadiens et les prochaines étapes, Nani Talani s'est entretenue avec Louis Balthazar, professeur émérite des sciences politiques de l'Université de Laval au Québec, Canada.
Ce qui l'a motivé, c'est que une personne qui a joué un rôle crucial dans son gouvernement depuis les débuts, c'est Madame Chrystia Freeland, qui était ministre de l'économie, a démissionné tout à coup parce que Monsieur Trudeau lui avait demandé d'abandonner le ministère pour se consacrer totalement aux relations relations difficiles avec les États-Unis en raison de l'avènement de Donald Trump au pouvoir et de ses décisions concernant les tarifs exorbitants au commerce avec le Canada, puis aussi avec d'autres pays. Madame Chrystia Freeland, elle a vu ça comme une démotion et elle a quitté le cabinet. Cela arrivait dans un climat où plusieurs membres du Parti libéral, qui est le parti de M. Trudeau, critiquaient son leadership et l'appelaient à démissionner.
Comment les Canadiens réagissent à cette situation?
Les Canadiens, en général, sont d'accord, comprennent que M. Trudeau devait démissionner. Ceux qui n'aiment pas le gouvernement se réjouissent du fait qu'il est parti. Ils auraient souhaité qu'il parte avant ça. Ils souhaitent des élections générales le plus tôt possible. Ceux qui appuient encore le Parti libéral comprennent bien toutes les raisons qui ont appelé M. Trudeau à démissionner. Sauf que plusieurs déplorent le fait que le gouvernement est en très mauvaise posture pour négocier avec les États-Unis, avec le nouveau gouvernement de M. Trump, puisqu'il en sort un peu affaibli, avec un leader qui doit partir dans une situation plutôt instable.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Pour plusieurs, ce qui est inquiétant, c'est que, étant donné les sondages, à l'heure actuelle, le Parti conservateur, dont le leader est M. Pierre Poilievre, est en avance très fortement dans les sondages, avec à peu près 20 points d'avance sur tous ses adversaires. Donc, ce qui nous attend, c'est probablement une élection générale au printemps et un gouvernement conservateur.
Professeur Louis Balthazar, des sciences politiques de l'Université de Laval au Québec, Canada. La génération Z, confrontée à l'essor des médias sociaux, s'inquiète de l'impact de ces plateformes sur la santé mentale. Les jeunes qui sont à la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte sont de plus en plus conscients des effets négatifs sur l'anxiété, la dépression et l'image corporelle. De nombreuses études soulignent l'importance de réglementer l'accès aux technologies pour protéger le bien-être des jeunes. Récit Nani Talani.
La génération actuelle d'étudiants est la première à avoir grandi sous l'ère des smartphones et de plus en plus de chercheurs examinent l'impact des médias sociaux sur le développement de l'enfant. Michelle Burke, professeur à l'Institut de technologie Stevens à Hoboken dans le New Jersey, a remarqué que les étudiants s'intéressent toujours à l'étude de la relation entre les médias sociaux et la santé mentale des jeunes.
Les étudiants de la génération Z avec lesquels je travaille sont très curieux. Et je pense que parce qu'ils voient beaucoup de maladies mentales dans leur génération, ils voient des luttes dans ce domaine particulier. Ils veulent vraiment comprendre pourquoi, afin de pouvoir mieux se soutenir les uns les autres, mais aussi parce qu'ils veulent mieux se comprendre eux-mêmes.
Michelle Burke parle des expériences qu'elle a vécues en discutant avec des étudiants de la génération Z qui ont grandi avec les smartphones et les médias sociaux.
Je pense que les étudiants de la génération Z, ou du moins les étudiants avec lesquels j'interagis, considèrent que leur communauté est très anxieuse. Ils constatent des taux de dépression plus élevés et ils veulent savoir pourquoi. Ils veulent savoir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le bien-être mental au sein de leur communauté.
Michelle Burke mentionne notamment la sensibilisation des jeunes aux problèmes de santé mentale. Dans leur génération, l'opinion des étudiants sur le degré de sévérité que les parents devraient avoir en matière de réglementation de l'utilisation des médias sociaux, ainsi que l'impact spécifique de ces problèmes sur les jeunes femmes.
Les jeunes femmes avec lesquelles je travaille sont très conscientes de l'impact des médias sociaux sur leur perception d'elles-mêmes et leur image corporelle. C'est quelque chose dont elles parlent et contre lequel elles essaient activement de lutter. Mais elles disent toutes avoir eu des difficultés au collège et au lycée, et peut-être qu'aujourd'hui, à l'université, elles commencent à avoir un peu plus de confiance en elles.
L'an dernier, le ministère américain de la Santé a demandé au Congrès d'exiger que les plateformes de médias sociaux affichent des étiquettes d'avertissement alertant les utilisateurs des dommages potentiels qu'elles peuvent causer à la santé mentale des adolescents.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'opposant vénézuélien en exil, Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dans son pays, a été reçu lundi à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden l'a assuré du soutien des États-Unis. Pendant ce temps, à Caracas, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition qui prévoit de manifester la veille de l'investiture du président Nicolas Maduro. Des précisions avec Lionel Gahima.
Dans un communiqué publié lundi après la rencontre entre Joe Biden et Edmundo González Urrutia, la Maison-Blanche a appelé à un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela en faveur de l'opposant en exil qui s'est réjoui du soutien de Washington. Edmundo González Urrutia, opposant vénézuélien.
Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle nous avons abordé divers aspects des relations bilatérales et nous avons bien sûr apprécié le soutien que le gouvernement américain nous a apporté dans cette lutte pour le rétablissement démocratique du Venezuela.
Sur place à Caracas, la tension monte alors que le président Nicolas Maduro doit prêter serment le 10 janvier. L'opposition a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, la veille de l'investiture. Maria Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne.
Nous, les Vénézuéliens, nous savons que si nous sortons tous, des millions d'entre nous, comment quelques centaines ou quelques milliers de personnes armées peuvent-elles attaquer 30 millions de Vénézuéliens? En fin de compte, la seule façon d'être libre est de vaincre la peur. Nous, les Vénézuéliens, l'avons démontré.
Le parti chaviste au pouvoir a lui aussi annoncé qu'il organisera une manifestation jeudi, parallèlement à celle lancée par l'opposition. Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur du Venezuela et vice-président du parti au pouvoir.
Et le 9, vamos a hacer una gran marcha.
Le 9, nous allons faire une grande marche. Non, une petite marche en fait. Ce n'est pas si long. Le 9, de Petar et à Plaza Breon, le monument de Martí qui s'y trouve.
Pour sa part, l'armée vénézuélienne a rejeté l'appel de l'opposant Edmundo González Urrutia à le reconnaître comme président. Vladimir Padrino López, ministre de la Défense.
Nous rejetons catégoriquement et avec véhémence cet acte clownesque et bouffon de base politique qui n'aura pas le moindre impact sur la solide conscience patriotique et révolutionnaire des forces armées nationales bolivariennes.
Après la présidentielle du 28 juillet, le président socialiste Nicolas Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% de voix par le Conseil national électoral. Sa victoire a été validée par la Cour suprême. Mais l'opposition assure que son candidat a obtenu plus de 67% de voix. Monsieur González Urrutia, qui a pu quitter le pays pour l'exil en Espagne en septembre, effectue depuis une tournée diplomatique internationale avec des visites notamment en Argentine et aux États-Unis. Les autorités vénézuéliennes ont promis de l'arrêter, on pense de 100 000 dollars pour toute information permettant de le capturer.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezello, à la mise en onde, Joselle Morissin. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA.